Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. En ce vendredi 14 février qui célèbre la Saint-Valentin, comment ne pas parler d'amour aujourd'hui? D'autant que vient de paraître un beau livre qui, à travers de très nombreuses illustrations de tableaux, de Gustave Moreau à Paul Cézanne, en passant par Gustave Klimt, mais aussi des dessins, des photos, un livre donc qui nous propose une promenade littéraire en compagnie de celles et ceux qui ont écrit sur ce sujet. Et cet album tout relié de rouge carmin paraît aux éditions des Saint-Père. Il s'intitule tout simplement « Je t'aime ».
L'amour.
Bonjour Dominique Marny.
Bonjour.
Romancière, commissaire d'exposition, présidente du comité Jean Cocteau, qui était votre grand-oncle et à qui vous avez consacré cet ouvrage. Vous êtes vous-même une amoureuse des lettres et ici, dans cette nouvelle publication, vous nous ouvrez les portes du sentiment amoureux tel qu'il a été peint ou retranscrit par différents auteurs, de Victor Hugo à Guillaume Apollinaire, en passant par Romain Gary, William Shakespeare, François Sagan et encore bien d'autres. Comment est née l'idée de ce livre d'art, cette déclaration d'amour ?
J'avais envie de faire une sorte de livre-exposition, c'est-à-dire de traverser un parc qui montrerait les différentes phases du sentiment amoureux. C'est une promenade littéraire, c'est une promenade muséale, c'est relier la littérature et la peinture ou la sculpture ou la photographie et montrer combien le sentiment amoureux a inspiré des artistes à toutes les époques.
Une envie qui vient aussi de l'époque où on ne parle pas assez d'amour, peut-être selon vous ?
Je pense qu'on parle d'amour à notre époque, on en parle différemment. C'était ça que je voulais montrer aussi, c'est que le sentiment, si au fond, il est ressenti de la même manière, enfin je pense qu'au fond, on aime avec autant de profondeur ou autant de légèreté, peu importe, mais il est vécu autrement. Il est vécu autrement, on ne s'écrit pas de la même manière, on n'envoie plus de lettres, on s'occupe d'Internet, on envoie des mails. Enfin, il y a des tas de choses qui ont changé dans la forme. On se rencontre sur des plateformes de rencontres, pas simplement au hasard d'un bal comme autrefois ou de choses comme ça. Donc voilà, c'est la forme qui a changé, mais le fond, je pense qu'il reste le même.
Définition de l'amour que j'ai lue à un moment dans l'ouvrage. Cette force invisible et invincible qui traverse le temps et l'espace depuis que l'homme et la femme existent. Celle qui nourrit les espoirs les plus intenses, l'exaltation et la fièvre créatrice, les chagrins dévastateurs et les renouveaux les plus inattendus. En bref, c'est à la fois le paradis et l'enfer, n'est-ce pas ?
C'est exactement ce que vous dites, c'est le paradis et l'enfer. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les gens qui sont tombés amoureux et qui ont vécu autant l'exaltation que la souffrance, eh bien même s'ils sortent d'une rupture difficile, ils vont être candidats pour retrouver un nouvel amour, quitte à recommencer à souffrir 1000 morts. Je crois que c'est Philippe Roth qui a dit que c'est la maladie dont personne ne veut guérir.
Et effectivement, ici, il y a de très nombreuses citations qui émaillent le livre. Alors, je crois que ma préférée, c'est celle de Mademoiselle de Scudéry. L'amour est ce je ne sais quoi qui vient de je ne sais où et qui finit je ne sais comment. Alors, j'adore cette définition parce que je trouve qu'elle a le mérite d'être honnête et lucide. En fait, on n'en sait rien du tout pourquoi on tombe amoureux.
On ne sait pas du tout, il y a une part de hasard certainement. Alors, il y a aussi quelque chose qui a changé aujourd'hui, c'est que le champ des possibles est beaucoup plus large. C'est-à-dire que maintenant qu'on voyage, maintenant qu'on prend des avions, des bateaux, des trains, etc., effectivement, il y a un choix beaucoup plus grand. On va de continent en continent, de pays en pays. Autrefois, en tout cas au temps de Mademoiselle de Scudéry, 17e siècle, l'entourage était très restreint. On s'éloignait peu de là où on vivait, c'était compliqué, etc. Donc, il y a déjà ce champ de possibles qui est totalement différent.
Donc ici, le livre se présente en 16 chapitres que vous avez imaginé, Dominique Marny, comme une promenade. Alors racontez-nous ce concept de la promenade.
J'ai pensé justement à Mademoiselle de Scudéry, dont vous venez de parler, et de sa carte du Tendre. Elle avait écrit et fait dessiner une carte du Tendre où il y avait des chemins qui menaient justement à tout ce qui pouvait être agréable. Il y avait des petits villages. C'était comme une carte géographique avec des petits villages, des chemins.
Oui, il faut expliquer ce que c'est. En fait, c'est la carte d'un pays
imaginaire, qui est le pays de l'amour. Et dans ce pays imaginaire, vous avez des routes que vous pouvez prendre qui vont vous mener vers des villages où il va se passer des choses agréables. Vous avez la mer dangereuse, vous avez le lac d'oubli, vous avez aussi, je crois, une autre mer d'indifférence. Enfin, voilà, vous avez des écueils. Et l'idée, c'est de traverser un parc qu'on a imaginé avec le graphiste Nicolas Patrinsky qui a travaillé avec moi. Et en fait, vous partez de cette entrée du parc, vous traversez un belvédère, vous traversez une fontaine qui vous ramène aux origines de l'amour, vous traversez une roseraie qui vous ramène à l'amour courtois. Et puis vous avancez, mais vous pouvez aussi vous arrêter, vous pouvez aussi sauter des arrêts. Et puis vous parvenez à une série de kiosques. Et chaque kiosque montre un aspect différent du sentiment amoureux. Alors vous aviez le kiosque rêver, le kiosque séduire, le kiosque consentir, qui est très important, et Dieu sait qu'on en parle et on a raison d'en parler maintenant, le kiosque embrasser, le kiosque avouer, le kiosque désirer. Vous voyez, vous avez aussi le kiosque souffrir, partager, promettre. Vous avez toutes les définitions possibles du sentiment amoureux à travers ces kiosques. Et dans chaque kiosque, vous trouvez des citations ou vous trouvez des œuvres qui sont des tableaux, des sculptures qui rappellent ce que ce kiosque évoque.
Effectivement, il y a toute la diversité de l'amour parce qu'il y a autant d'êtres humains, de couples que de différents amours, finalement, avec des étapes que l'on traverse ou pas. Néanmoins, effectivement, séduire, embrasser, promettre, partager, c'est le lot de tous,
C'est le cheminement logique et plutôt normal du sentiment amoureux. Mais à notre époque, on peut aussi changer l'ordre des étapes. Vous voyez, on peut peut-être désirer avant d'avouer ou avant... Enfin, il vaut mieux en tout cas consentir avant de désirer. Et voilà, j'ai essayé de mettre ça dans cet ordre-là. Mais il peut être, bien entendu, différent pour chacun.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very... extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
Donc voilà, le chemin de l'amour est balisé. Nous n'avons plus qu'à entrer avec vous dans ce livre. Livre, comme je l'ai dit, qui a une iconographie extrêmement riche, plus de 300 pages qui sont illustrées par des tableaux, des photos, des dessins. Est-ce que vous voulez nous raconter, Dominique Marny, comment est-ce que vous avez pu choisir ? Parce que l'amour, c'est tellement vaste et ça a dû inspirer tellement d'artistes qu'à un moment, il a fallu choisir.
Ça a inspiré un nombre d'artistes incalculables, c'est vrai. Le choix, il est subjectif, bien évidemment. Mais ce qui était important, c'est de ne pas plaquer des illustrations pour plaquer des illustrations. Ça ne m'intéressait pas. Donc, en fait, les citations, mes textes, parce que j'ai écrit des textes pour expliquer chaque chose, des extraits de textes aussi d'auteurs connus, tout ça doit se répondre. C'est pas comme ça, gratuitement, vous voyez ce que je veux dire. Et c'était difficile, le choix était difficile. Donc, il y a des artistes très connus, comme effectivement Rodin, comme Klimt, comme Doisneau pour les photographes. Il y a des artistes totalement inconnus. Il y a aussi des artistes contemporains, comme Nicolas Dax, comme Françoise Castaner ou comme Bruno Fabrice, le photographe. Donc, j'ai vraiment voulu que tout se réponde, surtout que ça soit pas chronologique non plus. Voilà, c'est un livre d'émotion, ça doit évoquer quelque chose. C'est pas simplement tourner des pages pour qu'on nous raconte, oui, l'histoire de l'amour chronologiquement. C'était pas l'intérêt pour moi.
Il faut dire aussi que ici, c'est l'amour et ses représentations occidentales.
Oui.
Ça, c'est important de le rappeler parce que, en effet, on n'aime sans doute pas de la même façon selon les continents, et vous avez pu en faire l'expérience, vous, Dominique Marny, j'imagine, en voyageant ailleurs et en Asie, par exemple.
Voilà, c'est très, très différent. C'est pour ça que j'ai vraiment scindé l'amour en Occident de l'amour en Orient. Je n'ai pas les connaissances suffisantes pour parler de l'amour en Orient, et c'est un sujet passionnant, mais c'est vrai que ce soit en Inde, en Chine, au Japon, les coutumes sont très différentes, on ne se déclare pas du tout de la même manière. En Inde, les mariages ont été très longtemps arrangés, dépendaient aussi des signes astrologiques et des thèmes d'astrologie de chaque personnage. Donc tout ça, il y a une iconographie magnifique en Orient, bien évidemment, mais moi j'estime que je ne suis pas assez compétente pour parler de l'amour en Orient avec justesse et ne pas me tromper, voilà.
Oui, parce qu'il y a des codes, donc.
Il y a beaucoup de codes, et donc c'est très, 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 très différent. Et on se rend compte que, par exemple, vous voyez, en Inde, on ne s'embrasse pas. Le Japon s'est encore vécu différemment. Et pendant très longtemps, on ne se montrait pas de façon extérieure quand on était en couple. Tout ça est très récent. Et c'est vrai qu'avec Internet, avec les réseaux sociaux, les choses ont changé en Orient. Et se sont, je dis entre parenthèses, attention, occidentalisées, mais vraiment très entre parenthèses, je vous dis ça. Mais oui, parce que les gens sont beaucoup plus au courant de ce qui se passe ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un sujet très, très différent et qui pourrait faire un livre magnifique. Mais je pense qu'il faut que ça soit vraiment un expert ou une experte sur ce sujet.
Donc ici, en effet, on est plus vers les cultures occidentales, européennes. Est-ce que vous diriez, Dominique Marny, que la France est un grand vivier d'amour ?
On peut dire ça, mais l'Italie aussi, on pourrait dire la même chose, on pourrait le dire aussi de l'Angleterre. Enfin, je crois qu'on peut le dire de tous les pays.
Et souvent, on dit que Paris est la capitale de l'amour.
On dit que Paris est la capitale de l'amour, et c'est certainement vrai, mais il y a des gens qui vous diront que Venise aussi, et voilà. Non, mais je pense que Paris a une place énorme, bien évidemment, et que la France a une place énorme dans le sentiment amoureux.
Donc l'amour dans différentes disciplines artistiques. Nous, dans Littérature sans frontières, on a l'habitude de faire une pause musicale. Alors, une question qui n'est pas une question piège, Dominique Marny. Quelle serait pour vous une des chansons d'amour qui vous émeut le plus ou à laquelle vous êtes particulièrement attachée ? Je ne dis pas la meilleure, je dis simplement qui vous touche.
Il pourrait y en avoir pas mal, mais c'est vrai que toutes les chansons inspirées d'Aragon sont quand même des très, très beaux poèmes d'amour. Peut-être que c'est à celle-ci que je penserai en premier.
Vous avez un titre en particulier d'Aragon ?
Non, pas vraiment.
Mais une chanson interprétée par celui qui l'a célébrée ?
Jean Ferrat.
Jean Ferrat. Alors on écoute Jean Ferrat qui chante Aragon pour évoquer l'amour.
Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon. Et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison, ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse, toi qu'on insulte et qu'on délaisse. Dans toute chair martyrisée, aimer à perdre la raison.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI qui célèbre en ce 14 février la Saint-Valentin, fête des amoureux, que nous évoquons aujourd'hui avec l'écrivaine Dominique Marny qui a publié aux éditions des Saint-Pères un beau livre qui en plus de 350 pages nous propose des variations de l'amour, cet amour qui a inspiré de tout temps les artistes, qu'ils soient peintres, sculpteurs, écrivains, photographes, cinéastes, un livre qui paraît sous le titre un peu plus évocateur, Je t'aime. Petite parenthèse, est-ce que vous savez pourquoi c'est le 14 février que l'on célèbre l'amour, Dominique Marny ?
Il y a eu une histoire de Saint-Valentin qui a été torturé ou quelque chose de pas très joyeux. Et puis, il y a l'histoire des pigeons. On dit que les pigeons roucoulent énormément vers le 14 février.
Alors, effectivement, il y a plusieurs versions, mais il semblerait que cette fête remonte au 14e siècle en Grande-Bretagne, où le 14 février, on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. Donc, c'était le moment de l'amour fusionnel.
D'où vient cette histoire des pigeons ? Et alors là, je beau guetter sur mon balcon, je n'entends strictement rien. Je pense qu'ils sont vraiment en grande fatigue ou en grande paresse, je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, c'est le calme plat.
Ou alors c'est le changement climatique qui a bouleversé aussi les amours des oiseaux. Donc voilà, c'était cette petite parenthèse pour dire pourquoi voilà, le 14 février, on célébrait les amoureux. Revenons donc à cet album « Je t'aime » parce que ce n'est certes pas chronologique, mais néanmoins, vous, à travers des textes personnels, Dominique Marny, vous traversez l'histoire de l'amour selon les époques. Les Grecs, les Romains, la France du Moyen-Âge, pour dire que ce sentiment a évolué selon les époques, selon les sociétés.
Il a inspiré la mythologie, en fait. On va parler bien évidemment de mythologie, des dieux mythologiques, des mythes aussi, puisqu'on va parler très vite du mythe d'Orphée, qui est absolument extraordinaire. Orphée qui descend aux enfers, qui brave les dieux des enfers, qui brave la mort pour aller chercher Eurydice, qui, piquée par un serpent, est morte et il va la rechercher, sauf qu'il n'obéira pas à ce qu'on lui a dit, de ne pas regarder Eurydice avant d'être retourné sur Terre. Et malheureusement, il se retourne et elle disparaît. Donc il y a ces mythes grecs, il y a aussi évidemment tous les poètes grecs qui ont écrit, comme Sappho. Il y a aussi tous les... Alors si on passe à l'époque romaine, on va parler d'Ovide qui a écrit sur le désir, mais alors on dit que c'était très érotique à l'époque, etc. C'est vrai que Ovide a parlé du désir, mais aussi bien du désir de l'homme que de la femme, alors que la femme, pendant longtemps, aussi bien chez les Grecs que chez les Romains, était vraiment quantité négligeable. Elle n'était destinée qu'à être la déesse du foyer, et c'était tout ce qu'on lui demandait, et d'élever des enfants. Là, justement, avec Ovide, tout d'un coup, le désir, la sexualité est élevée à égalité pour les deux sexes. Et ça, c'est très, très nouveau.
Et puis on en arrive à la France du Moyen-Âge, où là, d'une certaine façon, c'est un peu l'âge d'or aussi de l'amour, à travers l'amour courtois. Mais surtout, ce qu'il faut remarquer, sans doute, c'est la place précisément que tient la femme dans les représentations de l'amour, que ce soit par écrit ou picturalement.
Au XIIe siècle, la femme est élevée au rang de déesse. Elle est adorée. Elle est adorée par des troubadours. En fait, c'est très codifié, c'est-à-dire que la femme, la dame, avec un D majuscule, la dame doit être mariée. L'amour ne se vit pas dans les liens du mariage, mais se vit hors mariage et de façon platonique. Donc en fait, le mari est souvent absent, ou il guerroie, ou il est parti en croisade, ou il chasse, enfin il n'est pas là. Et ces troubadours qui sont des poètes, qui chantent, ces troubadours s'éprennent de ces fameuses dames dont ils doivent toujours taire le nom. Donc, ils écrivent des poèmes pour ces femmes qu'ils aiment, pour cette femme qu'un troubadour aime, et sans dévoiler son identité. Et il va être au service de cette femme, qui ne lui accordera pas grand-chose. Et c'est quand même très, très, très étonnant. Donc, cette femme devient absolument toute puissante. Et c'est un règne extraordinaire de la femme à une époque où personne ne parlait de ça. Enfin, je veux dire, les mariages existaient depuis peu, ils étaient régis par l'Église depuis peu. C'était des mariages arrangés par les familles. Et tout d'un coup, il y avait cette espèce d'amour comme ça qui vivait de façon reconnue, parce que c'était reconnu.
Mais qu'est-ce qui se passe alors après le XIIIe siècle pour que cette image idéale de la femme et cet amour courtois bascule dans quelque chose où la femme, justement, n'a plus grand-chose à...
Ah bien, c'est très simple, c'est que les hommes n'ont pas supporté ça et qu'on a fait en sorte, et l'Église aussi, à inculquer le culte marial un peu plus fortement pour donner une image de mari qui, elle, devait adorer. Et les femmes ont été remises sous le boisseau comme elles étaient auparavant.
Et d'où l'importance aussi dans ce livre de ce chapitre intitulé « Consentir », en effet, qui aujourd'hui a une résonance toute particulière, puisque le consentement est enfin revenu vraiment comme une priorité dans cette nouvelle génération et dans la société dans son ensemble. Et le chapitre s'ouvre d'ailleurs sur une citation de Stendhal qui est tout à fait juste. L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. Voilà, Stendhal a tout dit.
Il a tout dit, il n'y a rien à rajouter, il a absolument tout dit. Mais c'est vrai que le consentement a été foulé pendant très très longtemps au pied. C'est vrai qu'il était temps que les choses changent et elles commencent vraiment à changer. Il faut continuer. Et moi, j'ai fait partie des mouvements féministes, mais qui ont précédé notre époque. Et je vois que ça continue, que les jeunes s'emparent de ça. C'est très, très bien. Et le consentement, il doit être mutuel. Je veux dire, des deux côtés. Et je crois que là, enfin, je fais juste une petite parenthèse là, mais je pense que c'est très important qu'on éduque aussi bien les petits garçons et les petites filles à se respecter les uns les autres au sein des fratries, au sein des écoles. Ça commence tout petit et ça doit être fait maintenant.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven.
Alors revenons à votre livre, Dominique Marny, où vous écrivez que pour exister, l'amour doit s'écrire. En même temps, on dit souvent que les histoires de gens heureux n'intéressent personne, donc ce sont des histoires d'amour malheureuses qui s'écrivent.
Beaucoup d'histoires malheureuses se sont écrites à travers la littérature. Il y a énormément de choses qui se finissent mal. Mais s'écrire, c'est aussi s'écrire l'un à l'autre. Et c'est vrai qu'à une époque, pas si lointaine que ça, les gens s'écrivaient parce qu'il n'y avait pas de téléphone, parce que le télégramme n'existait pas, parce que les distances étaient difficiles à parcourir. Donc en fait, c'est vrai que les correspondances sont passées par les pigeons voyageurs. Quand on voit les pièces de Shakespeare, de Marivaux, on se rend compte l'importance qu'avaient les gouvernantes, etc., qui essayaient de faire passer les messages secrets. Il ne fallait pas que les familles trouvent les messages secrets chez les jeunes filles. Enfin, il y avait toutes les difficultés pour finalement correspondre. Et c'est vrai que maintenant, il suffit d'un clic. Il suffit d'un clic pour se dire dans la minute et être lu dans la minute par quelqu'un d'autre. Donc on est passé de jours quelquefois et de kilomètres à rien du tout.
Donc ce sont aussi les métamorphoses de l'amour. Donc là, il y a beaucoup de romanciers également qui sont cités. Quel serait votre roman d'amour préféré, vous, Dominique Marny ?
Il y en aurait plusieurs, mais je pense que La Perfection... Pour moi, c'est un roman épistolaire. C'est Les Liaisons dangereuses, je pense que pour moi...
De Choderlos de Laclos.
Oui, je pense que tout est dit et toutes les formes d'amour sont montrées. La vulnérabilité, justement la rouerie, le marivaudage. C'est vraiment le siècle des Lumières dans toute sa...
Le désir.
Le désir, bien évidemment. Tout est là, aussi l'innocence, la bêtise pour certains. Enfin, tout est absolument rassemblé pour montrer toutes les formes d'amour possibles. Positive ou négative,
d'ailleurs. Oui, il y a aussi l'amour sincère.
Il y a aussi l'amour sincère de...
dans ce roman.
Absolument.
Alors ici, j'ai noté une citation, entre autres, de Nick Cassavetes, qui est un réalisateur. Donc ça veut dire aussi, Dominique Marny, que vous incluez les références cinématographiques. Et en effet, un peu plus tard, j'ai trouvé des photos du film West Side Story, de Porgy and Bess, qui d'abord a été un opéra et ensuite un film. Et bien entendu, Le Mépris de Jean-Luc Godard avec l'inoubliable scène d'ouverture.
Et mes fesses, tu les aimes.
Exactement, je vous ai laissé le dire.
Tu vois mon derrière dans la glace?
Oui.
C'est tout joli, mes fesses.
Donc le cinéma aussi participe à cette déclaration d'amour.
Oui, bien évidemment, c'est très important. Il y a des films, vous citiez Nick Cassavetes, il y a ce film qu'il a réalisé qui s'appelle The Notebook, qui est justement une histoire d'amour qui dure jusqu'au moment où le personnage féminin est victime d'Alzheimer et son mari lui apporte ce carnet, le notebook, où elle consignait quand elle avait encore sa mémoire, leurs meilleurs souvenirs, et il vient lui lire tous les jours ce qu'elle avait écrit elle-même autrefois. Alors là, on on est dans une histoire d'amour superbe qui dure jusque dans la souffrance la plus totale pour les deux.
Et pour vous, ce serait votre film d'amour préféré aussi ?
Il y en a plusieurs. J'adore Sur la route de Madison parce que ça, c'est un amour qui dure 4 jours, qui est totalement éphémère. Il y a la lassitude ne peut pas s'installer. Ils n'ont le temps que d'aimer ce qu'il y a de meilleur en eux, ce qui se sont donné de meilleur, et ils ne se reverront plus jamais. Mais ça marquera la vie des deux.
Éternellement.
I'm kidding. I'm sorry. I'm just kidding. I'm so sorry.
Quelle est votre définition personnelle de l'amour, Dominique Marny?
C'est assez compliqué. Je pense que ça demande, bien évidemment, l'attirance, le désir, mais aussi le désir de liberté de l'autre, le respect de l'autre, de ce qu'il est, l'envie d'avoir des projets aussi, quels qu'ils soient, mais d'avoir des projets ensemble, d'étonner l'autre, de ne pas s'installer dans une routine. Enfin, c'est tout ça, c'est très compliqué.
Est-ce que ça se transmet, l'amour ? Parce que je disais en ouverture que vous étiez une descendante de Jean Cocteau, dont on sait qu'il a beaucoup célébré l'amour par ses dessins qu'on retrouve ici. Il y a un très beau Adam et Ève, oui. Par ses textes, par ses pièces de théâtre, par ses poèmes, par sa correspondance. Lui, l'amour, c'était un peu l'histoire de sa vie.
Ça a été l'histoire de sa vie, mais alors, il a été bercé très jeune par tous les récits mythologiques.
Et on parlait d'Orphée tout à l'heure.
On parlait d'Orphée, donc voilà, vous voyez l'histoire. Il a grandi auprès de statues grecques et auprès de statues représentant justement ses mythes préférés. Donc, il a baigné là-dedans, mais c'est vrai qu'il disait « je veux retendre la peau des mythes », mais c'est vrai que les plus grandes histoires, finalement, elles sont mythologiques.
Mais est-ce que ça se transmet donc, l'amour ?
Alors, oui, parce que oui,
Vous voyez,
non, je pense, ben, bien sûr, est-ce que véritablement, si on n'avait jamais entendu parler d'amour, on saurait ce que c'est ? Voilà, c'est ça la question, et moi j'aurais tendance à penser que c'est parce que, justement, il y a eu tous ces récits, il y a eu toutes ces histoires racontées, ces contes, ces romans, etc., qu'on sait ce que c'est que l'amour. Mais si on n'en avait jamais entendu parler, je ne sais pas ce qui se passerait. Là, c'est grand point d'interrogation. Voilà.
D'où la nécessité de rendre visible cet amour, de montrer ses tableaux, de montrer ses photos, de relire ses textes à travers quelques citations emblématiques et de se rendre compte qu'il y a eu tellement d'amour.
Il y a eu tellement d'amour différent en plus de ça. Et c'est vrai que ça permet de rêver, d'imaginer, de vouloir reproduire quelquefois pour certaines personnes, mais en tous les cas, ça montre que c'est possible, puisque certains l'ont vécu, et même beaucoup de personnes l'ont vécu. C'est périlleux, mais comme je disais au début de l'émission, c'est une maladie dont personne ne veut guérir, même quand on a traversé les pires tourments.
Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine.
Merci beaucoup, Dominique Marny.
Merci.
Je rappelle le titre de ce magnifique beau livre qui paraît dans cette couverture rouge carmin avec cette rose tout en or. Un livre qui s'intitule Je t'aime et qui paraît aux éditions des Saint-Père.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.